Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Très heureux d'être avec vous. Bon réveil. On vous accompagne évidemment toute la matinée avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Julien Beneteau et Denis Charvet. Dans quelques instants, les adieux de Raphaël Nadal. On s'attendait à une semaine de folie en Espagne. Nous n'avons eu qu'une seule journée. Une légende peut-elle réussir sa sortie? On ne changera rien. Même en cas d'élimination précoce en Ligue des Champions, Nasser El-Khelaïfi ne veut pas toucher à Luis Enrique. Bonne ou mauvaise stratégie, ce sera la punchline à 10h. Et puis 10h45, les GG contre-attaque. Mes GG, vous pouvez prendre les commandes de cette émission. Vous nous proposez un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. À vous de convaincre évidemment l'Assemblée, à vous de convaincre les auditeurs. Celui qui remporte le plus de suffrages viendra exposer sa problématique. Christophe, tu veux parler de quoi?
Je me pose la question de savoir si le calumet de la paix a vraiment été signé entre la France et l'Argentine hier. L'hymne argentin n'a pas été sifflé par le public du Stade de France, mais sous les cendres, les braises ne sont pas encore tout à fait froides. Je vais vous parler d'un sélectionneur de l'équipe de rugby Argentine à 7 qui a balancé sur Antoine Dupont. On n'a pas le droit de balancer sur Antoine Dupont.
Eh oui, ça ne touche pas que le football, cette rivalité France-Argentine aussi en rugby. Sarah, tu veux parler de quoi?
Eh bien, en début de semaine, mardi très exactement, on était à 100 jours de la fin des Jeux Olympiques. Et je voudrais qu'on se pose la question. Alors non, je voudrais qu'on se pose la question, savoir si on peut être encore fier de nos Jeux Olympiques, parce qu'aujourd'hui on en est au bilan et aux conséquences. Il y a ce fameux grand mot qu'on nous a bassiné pendant de nombreuses années, l'héritage des Jeux Olympiques. Où en est-il?
Très bien, bravo, très bon débat Sarah. Christophe aussi, il va falloir faire fort les copains.
Denis. Moi je suis un peu naïf, mais j'ai beaucoup aimé l'annonce du projet du PFC par Antoine Arnaud. Voilà, tout est beau, tout est bien posé, avec pas l'ambition de gagner la Coupe d'Europe. Mais bon, moi j'ai bien aimé.
Ok, le projet sain, ça t'a plu?
C'est intelligent.
Ok, t'as envie d'en parler, parfait. Julien Beneteau.
Ben moi, c'est un rapport parce qu'il y a un fil conducteur dans mon émission quand je la prépare. Par rapport au sujet de 10 heures où les légendes peuvent-ils réussir leur sortie. Il y a deux légendes et c'est de saison en plus parce que la neige arrive et le ski reprend ses droits. Il y a deux légendes du ski, Marcel Hirscher et surtout Lynn Seven, qui vont revenir et qui sont déjà revenus. Et je voulais savoir ce que ça vous inspirait, ces retours. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce qu'ils peuvent gagner ces grandes légendes qui ont arrêté et qui reviennent?
T'as bien fait d'en parler parce que ça sera pas retenu.
J'ai jamais gagné une contre-attaque.
C'est
à vous de jouer, les auditeurs. Maintenant, ce sera à 10h45. Vous pouvez voter tranquillement sur le compte X des grandes gueules du sport. Anne Hébert a dit un jour, il ne faut jamais dire adieu. Ça porte malheur.
RMC, le bras de fer GG.
Et c'est fini, c'est fini. Un coup droit qui sort très très loin. Et Rafa Nadal s'incline face à Sacha Zverev à l'issue d'un énorme match. Mais c'est une défaite en 3-7. J'ai envie de dire défaite héroïque, mais il est tombé sur plus fort que lui.
Ça fait 5 ans que tu prends pour un con.
Pas de podium pour Raphaël Nadal et je le surveille parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit quitter le court Philippe Châtrier. Est-ce qu'il y pense dans sa tête? Je sais pas. En tout cas, il s'arrête, il va vers le centre du terrain, il salue la foule.
Il y a 20 ans, t'étais le meilleur, le king, le top.
Et c'est un ace. Oh le mec, il est à genoux, Rafa Nadal. Il l'a fait. Incroyable démonstration de puissance, de tout. C'est le plus grand terrien de tous les temps.
Et tu crois que c'est facile d'être au top tous les jours?
Allez, deuxième balle. Elle est dedans. Retour de Nadal. Il est profond. Il est débordé, Nadal. C'est fini. C'est fini. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit Nadal sur un court de tennis. Peut-être. En tout cas, il n'a pas pu apporter le poids de la victoire. Nadal, pari perdu. Défaite 6-4-6-4 face à Botic Van de Solschoen.
Mardi soir, tard, très tard, Raphaël Nadal a dit adieu au tennis dès les quarts de finale de la Coupe Davis. Des adieux précipités. L'Espagne s'attendait à une semaine de folie à Malaga autour de son champion. Elle n'aura eu qu'une journée. Raphaël Nadal a fait son âge pour le dernier match de son immense carrière. Son oncle, Tony Nadal, n'a pas aimé l'hommage rendu à son neveu après le double perdu par l'Espagne. Est-ce qu'il a été à sa hauteur? Non, c'était émouvant, mais j'aurais juste aimé quelque chose d'un peu différent. Une légende peut-elle réussir sa sortie? Dans le coin gauche, la team oui, Julien Beneteau, Christophe Cessieux. Dans le coin droit, la team non, Denis Charvet Sara Pitkowski. C'est donc un 2 contre 2. Avant de débattre, on vous a évidemment consulté sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Je vais vous donner une première estimation dans quelques instants, mais nous retrouvons notre spécialiste tennis, évidemment, qui commente à la perfection le tennis sur RMC, Eric Salio. Salut Eric.
Buongiorno a tutti.
Arrête avec cet italien. Pourquoi tu parles italien comme ça?
Parle espagnol au moins.
L'Italie est en train de...
Buenos dias.
De rouler sur le tennis, c'est
exactement.
Ça ouais. Ok. Les amoureux du tennis...
On va peut-être en tirer des conséquences, non?
C'est pour ça qu'il m'a dit que l'Australie allait battre l'Italie, mais bon, pas grave.
Eric, revenons à nos moutons. Oui. Les amoureux du tennis avaient fantasmé ce moment. Il a un peu fait pchit, hein, ce moment.
Oui, pchit presque à tous les niveaux. Hein. D'abord parce que David Ferrer, le capitaine espagnol, a voulu titulariser Rafa Nadal en simple face à un joueur, Botic Van de Sanchoup, certes peu connu, mais quand même, qui avait battu Carlos Alcaraz à l'US Open. Rafa, tu l'as dit, il a affiché sa lenteur, ses insuffisances. Presque normal après tant de mois sans compétition. Et lorsqu'il s'est présenté en conférence de presse vers 20h, au fond de lui, il se doutait qu'il ne refoulerait plus un court de tennis.
Si j'étais le capitaine, probablement que je me sélectionnerais pas pour la suite s'il y en a une, mais ce ne sera pas ma décision. Finalement, c'est probablement mon dernier match si on ne sort pas. Vous savez, j'ai perdu mon premier match de Coupe Davis en 2004 et j'ai perdu le dernier. On peut dire que la boucle est bouclée.
À ce moment, il espérait encore aider ses potes à conquérir la qualification pour les demi-finales. On l'a vu se lever pour encourager Carlos Alcaraz dans le deuxième simple. Et quand Carlitos égalise, il ne pense pas à son destin personnel. Il croit toujours à la victoire collective. Mais le double décisif bascule en faveur des Néerlandais avec un cool-off exceptionnel. Et quand Marcel Granollers est mitraillé sur la balle de match, Rafa Nadal est comme interloqué. Il est minuit 2. Sa carrière de joueur vient de s'arrêter alors qu'il n'était même pas acteur. C'est ensuite l'heure d'une petite cérémonie que les ordinateurs imaginaient mettre en place dimanche. Pendant près de 15 minutes, Nadal tient le micro avec un flashback sur le môme qu'il était.
J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme d'une bonne personne venant d'un petit village de Majorque. J'ai eu la chance de grandir dans ce village, entouré d'un oncle entraîneur de tennis et d'une famille qui m'a soutenu à chaque étape de mon parcours. Je suis simplement un enfant qui a suivi ses rêves et a travaillé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Beaucoup de gens s'investissent et font de leur mieux chaque jour, mais j'ai eu l'opportunité de vivre des expériences inoubliables grâce au tennis. Au final, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de bien, un gamin qui a accompli bien plus que ce qu'il avait jamais imaginé.
L'émotion le saisit à la diffusion d'un clip qui voit défiler sa carrière et dans lequel Serena Williams, Roger Federer et Novak Djokovic lui glissent quelques mots. Mais le Suisse et le Serbe, ses plus grands rivaux sur le circuit, brillent par leur absence à Malaga. Finalement, aucune image forte ne se dégage, contrairement aux adieux de Federer il y a 2 ans. À Londres, on se souvient tous du cliché mythique de Roger et Rafa en pleurs se tenant par la main. À Malaga, c'était très light. Trop light, peut-être.
Et tout de même les Rafa, nous allons en débattre, parler de cette cérémonie d'adieu, mais également plus largement se demander si une légende peut réussir sa sortie. Nous vous avons posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Et pour vous, je suis très étonné, absolument pas de débat. Pour vous, c'est oui à 80%, non à 20%. Donc le camp du non, représenté par Sarah et par Denis, c'est vous qui allez commencer. Denis, pourquoi non? Pourquoi une légende ne peut pas réussir sa sortie?
D'abord, ça veut dire quoi réussir sa sortie? Parce que une légende, ça reste dans l'histoire, ça reste dans l'histoire de son sport, dans l'histoire tout court. Mais réussir sa sortie, ça veut dire quoi? Bon, tu me parles de Federer, Eric. J'ai trouvé grotesque la sortie de Federer. Si tu me dis, explique que la sortie de Federer, quand il fait son grand carnaval avec ses pleurs avec Federer, avec Nadal, moi j'ai trouvé ça horrible. Donc j'ai dit non, elle peut pas réussir. Mais quelque part, la sortie de Nadal, je l'ai aimée. Parce qu'elle est sobre, que en fait il dit des choses extraordinaires, parce qu'il dit je vais pas partir un an en exhibition parce que moi j'ai pas l'ego pour. Donc ça veut dire qu'il reste ce qu'il est vraiment.
Tu as préféré la fin réaliste de Nadal,
mais non, mais
avec l'incertitude de sport plutôt que la fin fake de Federer.
Bien sûr, parce qu'en fait, attends, je vais finir. En fait, un champion il sort par la porte qu'il peut. C'est Jean-Pierre Rive qui disait moi je suis sorti par la porte de l'infirmerie. Mais c'est la vérité. J'ai pris quelques champions, Jordan, Ali, Tyson Woods. Ils sont sortis comme ils ont pu. En fait, tu choisis pas pour moi.
Woods, il est pas sorti encore.
Oui, mais enfin bon,
oui, mais enfin, c'est
pire. C'est pire. Mais voilà, donc quand tu te réfères au grand champion de l'histoire du sport, je suis désolé, tu choisis pas vraiment ta sortie. Federer, il a pas vraiment choisi. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Il était blessé.
Federer, il a choisi sa.
Le problème des sportifs de haut niveau, c'est qu'ils ont toujours l'impression qu'il va y avoir une dernière danse fabuleuse et qu'ils vont rester toujours au sommet de ce qu'ils sont. Et ils sont toujours poussés à aller jusqu'au bout, faire le match de trop ou faire le comeback de trop. Il y en a tellement qui ont fait le comeback de trop. Donc ça demande quand même de prendre sur soi, d'arriver à analyser la situation, d'arriver à se
mais motiver. Mais est-ce que t'es lucide quand t'es
champion? Mais il y en a certains qui l'ont réussi.
Non, mais il y a déjà un souci.
Celui qui est le plus grand sportif, pour les Américains, le plus grand sportif de l'histoire, Michael, il s'appelle Jordan. Michael Phelps. Eh bien, Michael Phelps, il est sorti avec une 23e médaille d'or consécutive aux Jeux Olympiques.
C'est l'exception qui infirme la règle.
David Douillet, c'est quoi? C'est une exception aussi, David Douillet, pareil.
C'est des exceptions qui infirment la règle.
Ah oui, mais c'est des exceptions.
Oui.
Je t'en donne deux. Non, mais la question, c'était une légende peut-elle réussir sa sortie? Je t'en donne deux, donc maintenant t'as faux. Voilà.
Non, mais je rêve. Sachant aussi que David Douillet, et ça peut être l'axe de notre débat, c'est ce que tu disais aussi, mon cher Denis, c'est que David Douillet, il aurait aimé continuer.
Exactement.
Mais son corps l'a lâché.
Il a lâché avant et il a réussi à aller jusqu'au bout.
Ça, c'est vrai.
Et se motiver pour ce dernier. Regardez par exemple Zidane, il est passé à un doigt de la plus grande sortie de l'histoire. Il avait fait un comeback extraordinaire. Il réussit une Coupe du Monde incroyable.
Mais c'est un bon exemple parce qu'il a
raté complètement. Et pour rien du tout,
Est-ce qu'il n'a pas réussi sur une finale de Coupe du Monde? C'est l'image qui restera, mais ce n'est pas une image positive.
Donc Christophe, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mission impossible, c'est-à-dire que selon toi, réussir sa sortie, ce serait de choisir le bon moment,
exactement,
le bon endroit, et d'avoir anticipé le résultat. Mais c'est quoi le sport? L'incertitude du sport? Tu choisis pas quand tu vas gagner ou quand tu vas perdre.
Je dis pas, qu'ils ont choisi.
Si, parce que si Zidane, s'ils sont champions du monde, pour toi, à partir du moment où ils gagnent, ils réussissent sa sortie.
Mais
le résultat, le sportif par définition ne peut pas avoir la décision finale sur le résultat sportif. Nicolas Karabatic, la sortie idéale, elle aurait été quoi? De finir à Paris et champion olympique. Et pour autant, il rate sa sortie. La difficulté.
Mais tu rates ta sortie parce que tu veux toujours un peu plus prolonger.
Mais
une dernière échéance.
Donc tu ne sais pas t'arrêter. Ça dépend où tu places la fin de ta carrière.
Ils sont arrêtés au niveau du sommet.
J'en tiens pas rigueur à tous ces mecs-là qui ont peut-être, sauf à certains. Je veux dire, quand tu vois Tyson qui revient sur les cours, moi j'avais de la peine pour lui la semaine dernière. Quand tu vois Woods qui revient sur les qui marche presque, il lui faut des béquilles pour arriver sur les greens, je trouve ça triste. Quand tu vois Ali qui dispute ses derniers combats et qui est déjà Parkinson.
Christophe, t'as un exemple aujourd'hui.
Donc il faut savoir s'arrêter.
Teddy Riner, par exemple, il y a quel âge Teddy Riner?
J'ai peur qu'il fasse le goal.
Voilà, donc Teddy Riner, c'est l'exemple même du sportif, il ne sait pas s'arrêter.
Ouais.
Et tu le dis, mais je pense qu'un sportif, il n'est pas capable de s'arrêter.
Ok.
Je pense qu'il est rattrapé toujours par une blessure
ou par
autre chose.
Parce que tu le sais, toi, tu as écrit un bouquin là-dessus sur la fin de la carrière. C'est une petite mort. Et évidemment, tu n'as plus ni l'adrénaline, ni les sous qui vont avec. C'est donc signé. Forcément, tu as toujours envie de continuer. Donc.
Sarah termine et après Julien. Sarah.
Oui, je reviens toujours à cette histoire que pour moi c'est une mission impossible. Ça dépend où on place la fin de sa carrière. Est-ce que la fin de sa carrière, c'est une petite mort? Comme ça arrive à de nombreuses personnes.
À 99%.
Exactement. Ou à un moment, c'est-à-dire que tu as déjà pris du recul sur toi-même, sur ce que tu es. Parce qu'un sportif, c'est pas quelqu'un qui va au travail de 9h à 18h ou de 9h à 20h. Tu es sportif, athlète de haut niveau, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Donc, si tu le places du côté de 99%, de fermer la dernière page du livre, une petite mort, ou tu la mets, c'est une seconde carrière. J'ai eu ma première carrière sportive et je vais évoluer dans un autre univers. C'est un vrai débat philosophique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que réussir une sortie, réussir une fin de carrière. Mais déjà, c'est antinomique, ces deux mots. Ça va
bien
pas.
Sûr. Mais regarde, Christophe, il a pas réussi sa sortie.
Donc c'est quasiment impossible.
Parce que il est encore là.
Je combat trop. L'émission de trop. Mais,
par exemple, pour
avec les grandes gueules de trop, je veux dire, après, ça fait 20 ans que je te suis, j'en peux plus.
Pour Raphaël Nadal, la question avait pu se poser quand il gagne ce Roland-Garros inouï alors qu'il est totalement blessé. Oui. S'il arrête à ce moment-là, je ne dis pas que ça change sa carrière, ça donne une autre envergure.
Ça ne change rien à sa carrière.
Non, ça ne change rien.
Ça change rien.
Mais ça imprime sa sortie.
Mais c'est le bon, Nadal, c'est le bon exemple, Nadal. Ouais, parce que justement,
il est persuadé qu'il peut encore gagner.
Mais bien sûr.
Julien, justement, là-dessus, est-ce que il gagne à Paris, il est persuadé qu'en faisant la même chose, il sera toujours imbattable dans 4 ans.
Ça aurait pas été exceptionnel de le voir dire adieu à la carrière.
Mais je suis d'accord, mais c'est très compliqué. La sortie,
Julien,
parce qu'on a parlé de Federer, la scénographie, etc., comparé à celle de Nadal à Malaga à minuit, 10 minutes, pas de. Il y a à la fois la sortie sportive, il y a aussi l'emballage de la sortie, c'est ça.
Les hommages qui vont être faits après.
Tony Nadal, c'est ce qu'il a dit. Mais en fait, les hommages, il les aurait eus s'il avait accepté cette année la direction du tournoi Roland-Garros, lui a demandé à Raphaël Nadal.
Parce qu'il pensait revenir, je pense, au fond de lui. C'est pas sûr,
c'est son humilité aussi.
Ça correspond pas avec le personnage, avec le truc, voilà, avec son... Mais franchement, moi, j'ai trouvé c'était raté du tout. Je suis d'accord avec toi, Denis.
De beaux adieux. Je comprends pas Tony Nadal, d'ailleurs.
C'est bien pour un athlète de terminer sur le court, sur le terrain.
Christophe, c'est bien en tant que...
La sortie de Roger, moi, elle m'a pas plu.
C'est
un communiqué envoyé. Nadal, il a fini les armes à la main. Il a été battu, certes, mais il a fini les armes à la main devant son public, devant sa famille, devant ses amis. Et rien que pour ça, et avec les larmes de tout le monde, rien que pour ça, je trouve que c'est beau.
Sarah, pas d'accord.
Mais non, je suis pas d'accord. On peut pas définir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Enfin, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui, à un moment ou un autre, vit un déchirement. Alors, t'en as quelques-uns. Tu l'as dit, Michael Phelps. Il y a Ashleigh Barty, 25 ans. Elle gagne l'Open d'Australie. Elle dit merci, je suis numéro 1 mondial. Elle tire sa révérence.
Borg à 26 ans.
Exactement. Elle dit je veux arrêter, je veux faire un enfant. Mais ces cas-là, ils sont extra rares. Combien de fois, Lormanodou, elle te dit qu'elle arrête après ses médailles, et elle, en fait, elle replonge 4 ans après. C'est
son
moyen.
Frère, et Florent Manodou, il a fait la même chose. Il a fait du handball, Donc, comment il s'appelle? Borg, en plus Borg, il s'arrête à 26 ans, on croit que c'est bon. Il fait une dépression derrière.
La psychologie à ce moment-là, Christophe, elle est tellement incompréhensible. Tu peux pas demander à Nadal qui perd à Roland Garros en disant, en l'espace de 5 secondes, il range sa raquette et au fait, ça y est, je vais arrêter. Mais quel être humain qui a été au sommet de son sport peut switcher de cette manière-là? Émotionnellement, psychologiquement, ce n'est pas possible.
Mais moi, je trouve que la sortie de Nadal est très significative dans le sens où Nadal, finalement, il est comme les autres, en fait. C'est-à-dire qu'il a cru qu'il pouvait encore gagner, alors qu'il était incapable de gagner. Il a été surclassé par un mec qui était 140, tu me dis qu'il est bon, mais il est 140e. Mais je veux dire, s'il est chez lui à Malaga, il a joué parce qu'il était convaincu qu'il allait gagner. Non, je le pense vraiment.
Je pense qu'il raisonnait collectivement aussi.
Oui, mais
il voulait une
belle photo de
famille autour du
stadier avec Alcaraz. Il demandait pas à jouer en simple. Il s'attendait pas à jouer en simple, d'ailleurs.
Il était surpris que Ferrer lui dise, tu vas y aller.
Oui, mais il aurait pu dire à Ferrer, je pense que je ne suis pas capable.
Non, c'est pas Nadal.
Je suis désolé. Ah ben d'accord.
C'est pas Nadal.
Sauf que le risque était grand, puisque l'enjeu était là.
Ce qui était fou quand même, c'est qu'il dit après son match, alors que l'Espagne est encore en course, moi, en simple, vaut peut-être pas me mettre.
Plus, c'est le
comment se serait passé la fin du tournoi sans Rafael Nadal?
Je préfère l'avoir vu être battu sur le court plutôt que l'équipe d'Espagne éliminée sans que Nadal ait joué. Alors là,
justement, Pierre veut revenir sur cette dernière sortie de Rafael Nadal. Bonjour Pierre.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Merci d'avoir composé le 32-16. Tu veux revenir sur ces adieux?
Alors déjà, en sportifs qui ont plutôt bien réussi leur sortie, il y a Kobe Bryant aussi qui a bien réussi sa sortie. Avec un dernier match à 60 points qui donne la victoire aux Lakers. Enfin,
c'est vrai, il y en a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples.
Non, mais il y en a.
Ça, on l'avait pas.
Et il l'avait dit, c'était son dernier match?
Il l'avait dit, oui, c'est sa dernière saison. Il a fait un farewell tour, une tournée d'adieu sur toute la saison. Enfin, c'était pas mal, hein. Franchement, c'était une belle sortie. Enfin, sur Nadal, moi, je pense qu'en fait, il aurait dû arrêter après Roland Garros. Après la défaite contre Zverev, voilà, passage de témoin à la nouvelle génération. Il aurait dû faire le double avec Alcaraz, juste le double au JO, et parce que fallait voir Alcaraz-Nadal, ça, c'était pas mal. Mais en fait, les sportifs, pour moi, c'est comme, vous savez, quand vous mangez un bon repas, et voilà, vous avez plus faim, mais vu que le repas est bon, vous voulez en reprendre. Et le problème, c'est que le lendemain, vous allez avoir l'indigestion, quoi. En fait, je pense que pour réussir sa sortie, faut pas être gourmand. Faut se dire, bon, voilà, j'y arriverai plus. Et arrêter de se dire, je vais peut-être encore y arriver, encore avoir
mais ça,
un coup d'éclat.
Ça, c'est une utopie, c'est pas possible.
Dire qu'un sportif, à un moment, quand il est blessé, où il est en train de décliner, il se dit, bon, bah, quand je remonterai pas, j'arrête. Mais qui on est pour dire à un sportif d'arrêter quand
mais c'est impossible.
C'est impossible. Non, et il y en a qui auraient dû arrêter et qui ont continué à avoir des titres. Et s'ils s'étaient dit à la première baisse de régime ou à la première blessure, c'est terminé, je pourrais plus. Mais on en aurait perdu plein haut.
Pierre veut répondre.
Oui, mais Sarah, pour Nadal, on parlait pas de la première blessure et du premier déclinement. On parlait quand même
non,
de
mais
plusieurs
nous,
blessures.
Non, mais notre débat, il
ça faisait un moment qu'il arrivait plus à revenir. Oui, mais pour tous les sportifs, Zidane, par exemple, à la Coupe du Monde 2006, il aurait pu encore re-signer au Real Madrid une ou deux années.
Mais Zidane était revenu avant, quand même, souviens-toi.
En fait, il a su que ça serait la dernière danse, et c'est peut-être mieux, justement, de l'annoncer avant que ça serait la dernière danse, et puis te concentrer à fond sur le dernier objectif. Alors que Nadal, en fait, il repoussait à chaque fois, par exemple. Il se disait, c'est pas encore la dernière, la dernière. Et bah, au final, franchement, moi, Nadal, à la fin, j'adore le joueur, hein. Mais moi, il m'a fait plus de peine qu'autre chose sur les derniers tournois.
Pierre, quand tu t'arrêtes, t'es sportif, ça fait toute ta vie, t'es construite autour du sport, matin et soir, quand tu t'arrêtes, tu sais que la fin est proche, mais tu repousses tout le temps, jusqu'à un moment où tu te dis, ben, c'est le corps, il est plus là, tu peux plus, mais tu peux pas décider du jour au lendemain, tu dis, tiens, alors tu en as, tu me dis, parle de Kobe Bryant, il a quoi, deux ou trois, je dis, sportifs, mais après le reste, c'est impossible, je suis comme Sarah,
tu décides pas quand est-ce que tu vas prendre ta retraite.
C'est un choix insoluble. Tu t'en souviens au moment où tu as décidé de prendre ta retraite, Julien?
Ouais, mais j'ai eu la chance de choisir. C'est-à-dire qu'à l'été 2017, je me suis dit, 2018, ce sera la dernière. Quoi qu'il arrive. Et donc, du coup.
Et pourquoi? C'est une question de niveau ou c'était
non,
une question
parce que
d'envie?
J'ai très, très bien joué fin 2017, bah oui. Demi-aversi, 2018, je joue bien et tout.
Et ça t'a c'est pas juste... poussé à dire, ah non, mais en fait, si, j'en ai encore sous le pied?
T'as été tenté à un moment, mais non, jamais.
Moi, j'ai arrêté à 35 ans, parce que j'avais dit, je vais arrêter à 35 ans. Mais la prise de champion de France. Stade français. C'est bien.
Et toi, t'es parti en dépression nerveuse?
Je suis parti en dépression nerveuse derrière. Ouais. Non, un truc con, hein.
Tu crois que je prendrai pression quand j'essaie de virer d'ici là? Non, pas du tout.
Bah, il l'a déjà fait, t'as déjà viré. Ouais.
il m'a mis sur le strapontin.
C'est parce que j'ai aucun courage, donc j'ai fait les choses à moitié. Merci beaucoup Pierre d'avoir composé le 32-16. Merci beaucoup Eric Salio d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. La punchline des GG, c'est Nasser Al-Khelaifi cette semaine sur RMC. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, Luis Enrique restera. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34 de retour dans les Grandes Gueules du Sport avec nos GG, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Denis Charvet. Dans 10 minutes, les GG contre-attaquent. Mes GG, vous avez tous proposé un débat il y a quelques minutes, soumis au vote sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Et Denis, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'espère que t'as bien bossé, hein, parce que je pense que tu vas gagner là. T'es à 47%. Avec 4 débats.
Oui, mais c'est pas
47%, le Paris FC, tu es convaincu par le projet.
Bien sûr, le football. Écoutez son truc, parce que ça va être une
calamité. Il n'a
rien préparé du tout.
T'es méchant. Non,
mais c'est sûr, hein.
Non, mais jaloux. Mais t'es rejeté par la jalousie, tu devrais pas être ici, tu vois. T'as sorti le rodillard depuis un an ou deux ans, même.
Attendez, les copains. On va voir, on va juger sur pièce.
Et moi, je suis à quoi? Moins de 10%?
Oui, à peu près. Ce sera dans 10 minutes. Denis a 10 minutes pour se préparer pour nous parler du Paris FC.
Figure-toi, tu sais pourquoi j'ai fait ce débat.
Pourquoi?
En opposition avec la communication du PSG.
Oh là là, mais c'est
mais
travaillé
mais
tout ça.
Truc, mais
c'est incroyable. Mais attends, ça veut dire que tu connais parfaitement le conducteur.
Le talent lié au travail
du PSG. L'incarnation. C'est certainement ce que l'on appelle apprendre de ses erreurs. Jeudi, Nasser El Khelaifi s'est montré très clair sur l'avenir de Luis Enrique, invité exceptionnel sur RMC de l'émission Rotten sans flamme. Le président du PSG a conforté son entraîneur, même si ça se passe mal en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, qui s'est imposé hier en Ligue 1, 3-0 face à Toulouse, est en grand danger sur la scène européenne. Seulement 25e sur 36 à 4 journées de la fin de la phase de poule, sachant que mardi soir, ce sera un déplacement à Munich face au Bayern Munich. Serait-il menacé en cas d'élimination ? C'est la punchline des GG. Réponse Nasser El Khelaifi.
RMC, la punchline GG.
On ne change rien. Là qu'elle arrive, on sort, on gagne. C'est exactement la même chose. On a beaucoup confiance dans le coach. Il a fait très bon travail avec le sport advisor Luis Campos.
Jamais en danger, quoi qu'il arrive. Bonne ou mauvaise stratégie ? Denis Charvet.
Mais mauvaise.
Mauvaise. Julien Beneteau.
Sur le papier, c'est une bonne, mais ça se passera pas comme ça.
Ok. Sarah Pitkowski.
Bah, à l'heure où on se parle, en ce samedi, c'est une bonne stratégie. Elle est cohérente.
Ok, elle est plutôt cohérente. Christophe Cessieux.
Je suis exactement sur la ligne de Monsieur Beneteau.
Parfait.
Exactement pareil.
Denis, pourquoi mauvaise ?
Ben, mauvaise parce que l'histoire parle d'elle-même, l'histoire du PSG, je parle du président en place qui a prouvé depuis maintenant 15 ans, non, ça fait 12 ans, entre 12 et 15 ans qu'ils sont ici, que
13 ans,
donc un entraîneur, ben il prenait la porte dès qu'il le désirait, dès que ça allait pas, dès que le grain de sable, voilà, qui se mettait dans la machine.
Pardon, mais il a le droit d'avoir changé quand même.
Mais je crois pas. Je crois pas, puisque on l'a bien vu avec Laurent Blanc, qui a été reconduit pendant deux.
Tu me parles du début de l'ère Qatari.
Non, c'est pas le début, mais après, d'accord, mais combien d'entraîneurs sont partis du PSG du jour au lendemain? Je te fais la liste est longue. Moi, j'y crois pas parce que demain, imagine demain en Champions League, t'es pas qualifié, ce qui est possible,
hein.
C'est
possible. Ouais.
Ah ben c'est possible, excuse-moi, c'est possible.
Ah oui, c'est très possible.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc tu confortes l'entraîneur qui te fait pas gagner, qui te qualifie pas, et qui tu lui dis ben on le laisse continuer. Moi j'y crois pas du tout à cette politique là. J'y crois pas.
Alors pourquoi on le fait resigner le 18 octobre alors que les matchs de Ligue des Champions ont déjà commencé ? Pourquoi on le fait resigner jusqu'en 2027 ?
Mais donc ça va dans ce que je disais par rapport à Laurent Blanc, c'est la même chose. On refait les mêmes erreurs.
C'est une stratégie alors.
Mais non, je dis que c'est là non pour mais moi.
On refait. La même histoire.
Pour moi, là, aujourd'hui, le PSG est cohérent. C'est-à-dire qu'ils veulent s'inscrire dans une autre dynamique. C'est-à-dire, sur la durée, avec un entraîneur, moins de stars, et laisser un entraîneur construire son équipe. Donc, quand tu reconduis un entraîneur au bout d'un an et demi, tu le reconduis jusqu'en 2027, alors que tes matchs de début de Ligue des Champions sont quand même assez quinquas.
Mais c'est pour ça que c'est une mauvaise stratégie.
Mais non, la mauvaise stratégie.
Non, justement, là, je suis d'accord.
Mais
avec ça,
bien sûr. Que ça soit Luis Enrique ou Nasser, disent que c'est pas la Ligue des Champions n'est pas l'objectif de cette année.
Mais c'est un fumage, donc, ça, Sarah. C'est pas vrai, ça. La Ligue des Champions, c'est pas le championnat.
Mais peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, aujourd'hui, quand tu prends les faits, c'est-à-dire que tu reconduis ton entraîneur le 18 octobre jusqu'en 2027, c'est que tu es cohérent par rapport à ce que tu n'arrêtes pas de dire depuis quelques mois. Non. Le PSG,
c'est en ça où je suis d'accord.
Mais ailleurs, oui,
c'est pour ça que je te dis c'est cohérent samedi 24 novembre, aujourd'hui. C'est cohérent aujourd'hui.
On est 23,
mais je suis d'accord. C'est
là où je dis que je suis d'accord que c'est une bonne stratégie, mais et que c'est cohérent par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. En revanche, je n'y crois pas et je n'y achète pas. Pour plusieurs raisons,
c'est paradoxal ton discours.
Je comprends pas.
Mais si.
Pourquoi ils le feraient avec Luis Enrique et pourquoi ils l'ont pas fait avec Ancelotti ou
parce que c'était un autre moment où en fait ils misaient sur leur star.
De leurs erreurs.
Bah, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de nous servir aujourd'hui.
Et surtout, je pense qu'en fait, dans le milieu du football, encore plus qu'ailleurs, c'est que les résultats vont parler et que ils vont se qualifier en Ligue des Champions. Mais s'ils font 8e de finale et qu'ils paument.
Moi, je dis qu'il est encore là l'année prochaine. Mais
normalement, déjà, il faudra passer par les 16e, parce que le Paris Saint-Germain n'est pas encore très loin d'être qualifié déjà dans les 8 premiers.
Ils se qualifient en 16e, ils gagneront. Ils vont jouer une équipe pas très forte. Sur un match aller-retour, ils vont gagner. Mais
il y a un truc que je comprends pas dans votre analyse. Le PSG dépense autant d'argent qu'avant. Ils ont une politique en disant je recrute, on va pas recruter des stars, mais c'est les stars qui font gagner. Je suis désolé, c'est les grands joueurs qui font gagner.
Ah bah la preuve que ça ne les a pas pour autant fait gagner.
Mais en ce moment, ça, c'est un CP.
Non, mais quand on a eu, quand on avait Neymar et Messi, c'est pas pour autant que ça gagne.
Je parle de leur nouvelle politique qu'ils ont mise en place.
C'est-à-dire ils sont en train, il est jeune.
Pour moi, je n'y crois absolument pas parce que les grands joueurs ont gagné.
Tu dis. C'est les stars qui font gagner. Eh bien, donc ils ont moins de stars. Ils font une autre politique. On est
mais c'est la politique de Lucien Riquet de ne pas avoir de stars. C'est lui la star.
Ils sont les chercheurs. 16e de finale, est-ce que tu crois que Luis Enrique peut rester? Est-ce que tu crois que ça va pas être le feu au PSG?
Je pense qu'il peut rester parce que j'ai l'impression que Nasser s'est fait une raison encore une fois cette saison sur le fait que son équipe ne gagnera pas la Ligue des Champions. Il le disait depuis le début de la saison. On est en reconstruction, on a intégré des jeunes, on a un entraîneur et on va pas s'arrêter parce qu'il y aura une élimination. Évidemment, ça le fragilisera. Sérieusement. S'il se fait sortir là, s'il ne va pas en phase finale du tout.
On parle du PSG, je suis désolé.
Ils ont essayé tous les entraîneurs.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? S'il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, il dégage. Évidemment qu'il ne peut pas dire ça.
Ça veut dire qu'on ne met pas de pression, ça veut dire qu'on lui donne carte blanche.
Mais
c'est exactement ça le discours. Je suis désolé.
C'est pour les gogos comme toi.
Non, mais pas du tout. Moi, je n'y crois pas sur la communication.
Tu penses. Qu'il y croit vraiment à ce
Oui, je pense qu'il y croit vraiment.
Tu ne sais pas qu'il ne se rend pas compte que s'il perd et s'il est éliminé en Ligue des Champions,
Mais pourquoi
le président fait cette sortie?
Mais parce que c'est pour les gogos comme toi, pour les supporters du PSG.
Je me lève.
Pour leur faire plaisir.
Il est debout avec sa nouvelle hanche. Reste avec nous, Denis.
Aujourd'hui,
Julien et Sarah. En revanche, je pense que le président s'est enfermé dans quelque chose.
Voilà.
Une nouvelle croyance.
Je suis content d'entendre dire ça.
Il s'est enfermé dans quelque chose. C'est-à-dire qu'avec sa nouvelle politique et avec sa communication, s'il sort Enrique en février ou en mars parce qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions ou qu'ils perdent en huitième, il est plus du tout crédible, le président.
Donc sa communication
n'est pas que de la communication. S'il communique comme ça, c'est qu'il ne peut
agir de cette manière-là.
Mais surtout, s'il sort Luis Enrique, ils vont aller chercher qui? Ils ont tout essayé, à part Pep Guardiola. Klopp. Qui est-ce que tu vas chercher? Klopp? Allez, mais ils ont
Klopp,
déjà tout essayé. Avec un petit peu de pragmatisme et en réfléchissant, t'as déjà essayé tellement de solutions qu'il y en a une qui peut te dire aujourd'hui, on va essayer de garder la longueur, le même entraîneur, on va lui laisser construire son équipe et on tirera des conclusions, mais on va pas les tirer encore au bout de trois mois de Ligue des Champions.
Je pense qu'il y a beaucoup de fierté et d'orgueil chez lui. Dans la mesure où, en fait, il se conforte à l'idée et que cette sortie médiatique fait qu'il dit, nous, on se trompe pas, il anticipe, en fait, mais il s'est trompé tout le temps
ridicule. Jusqu'à maintenant.
Quand tu connais le football.
Au moins, depuis quelques mois, il est droit dans ses bottes, on peut lui dire, il dit la même chose depuis plusieurs mois.
Oui, mais c'est ce que je te dis. Cette nouvelle sortie, pour moi, elle est ridicule.
J'aimerais vraiment être dans 3-4 ans.
Mais ouais, mais moi aussi, tu sais
quoi. Quel est le plus probable? Quel est le plus probable? De voir Luis Enrique sur le banc du PSG dans un stade à Poissy ou de voir un autre entraîneur du PSG au Parc des Princes dans 3-4 ans? Si tu écoutes ce que dit Nasser,
la réponse à cette question.
Si tu écoutes ce que dit Nasser,
Luis Enrique dans
un autre stade.
Ok,
mais j'en suis vraiment pas sûr.
Okay. Et Klopp sur
au PFC à sur le banc du PFC avec
avec 50 000 déchaînés. Ce serait génial.
Et Denis qui aura changé Kazakh. Bon,
Bien, justement, il ira plus de champagne.
Je pense que Denis a gagné sur le Paris FC. Il veut nous parler de ce projet ambitieux qu'il aime tant. Enfin, un projet qu'il aime. C'est peut-être dans quelques instants si vous continuez de voter pour ce débat. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, de retour dans les grandes gueules du sport. Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Julien Beneteau, Christophe Cessieux, merci de votre fidélité. Restez bien avec nous encore. De belles choses à vous raconter dans cette émission. À 11h, on reviendra sur la tournée du 15 de France. Est-ce qu'elle fait oublier la tournée en Argentine cet été? Elle était catastrophique de nos bleus. Les GG ne sont pas d'accord sur cette question. Et puis le débat caché. Alors là, vous allez adorer ça, c'est sûr. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les GG.
RMC, les GG contre-attaque.
Quatre propositions ont été faites ce matin par les GG, quatre propositions de débat. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Avec 9%, il l'a dit, il fera moins de 10%. Paris réussit le retour d'Hirscher et de Lindsey Vonn en ski. Bravo Julien Beneteau, 9%.
Aucun commentaire.
Aucun?
Non. Je ne gagnerai jamais.
Un jour, tu gagneras.
Je commence à douter.
Tu vas gagner. Moi, je le sais.
Peut-être comme Lucien Riquet en 2027.
Il faut un pape mental, je pense.
Oui, mais on compte te garder encore quelques années. Donc,
ah,
tu vas gagner.
Merci, t'as des infos?
Non, mais en tout cas, c'est une volonté personnelle. Une volonté amicale. L'héritage des Jeux Olympiques, 3e place, 19%. T'es bien battu, ça.
Non, mais vous comprenez pas. J'essaie d'élever le débat, en fait.
Ah oui, mais attends, c'est les
des sujets sociétaux. Bah ouais, mais à chaque fois, je prends une claque.
On redescend tranquillement.
Sur les sujets sociétaux, c'est dingue, ça.
On veut pas faire.
Comme David Douillet.
Deuxième. Christophe Cessieux, 23%, et cette rivalité France-Argentine, c'est pas passé loin.
Il y en a que pour le rugby.
Ce qui est dur, c'est d'être derrière Denis. Ouais. De finir deuxième, ouais. Mais c'est surtout d'être derrière Denis.
Pour gagner ce truc, il faut dire, je vais faire un sujet sur Mbappé ou un sujet sur PSG. Là, t'es sûr de gagner, de toute manière. De toute façon, nos auditeurs et nos tweetos, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.
Je ne sais pas, nos auditeurs.
J'y sais,
il est temps de s'en séparer de lui.
Bah écoute, la retraite, c'est quoi?
Déjà,
il
est plus au top,
il va revenir.
Régale ton éditoire. Vas-y, régale ton éditoire.
Je parlais de ça parce que ça m'intéresse.
49%, voilà. C'est une grande victoire. Large victoire pour Denis Charvet, le projet du Paris FC, exposé cette semaine par Antoine Arnaud. À toi de jouer, Denis, on t'écoute.
Écoute, non, j'ai choisi ça parce que j'ai été très, étonné, mais dans le bon sens du terme, par la sortie, la conférence de presse d'Antoine Arnaud. Alors évidemment, c'est de la com, c'est réfléchi, c'est bien pensé, il y a une vraie stratégie derrière, mais au moins j'ai senti de l'authenticité, ce que je sens pas au PSG aujourd'hui. On vient d'avoir le débat avec le président Nasser, et là en fait ils vont dans une bonne direction, ils s'associent avec Red Bull parce qu'il y a Klopp derrière et que dans un futur proche, mais pourquoi pas Klopp serait l'entraîneur de cette équipe. En tout cas, le conseiller très, très rapidement, il va être conseiller de l'équipe du PFC. Il parle de la formation, évidemment, la formation, c'est un peu de l'enfumage, parce que la formation, tu rentres dans tous les clubs français, la formation, que ce soit à Marseille ou même au PSG, ça existe très, très peu.
Antoine Arnaud l'a dit, le meilleur centre de formation de France.
Voilà, le meilleur centre, ça, j'y crois absolument pas. Après, il dit, en même temps, il dit, on va prendre l'équipe en deuxième division, et puis on va acheter 8 joueurs. Donc, c'est pas pour faire la formation, là. Donc, 8 joueurs, je pense que c'est 8 joueurs qui sont de bon niveau pour pouvoir monter en première division. Donc, tout ça dans un avenir très proche. Mais, je trouve que la réflexion qu'ils ont sur le fait de dire, ben, on n'est pas là pour gagner la Ligue des Champions dans 5 ans, ils préparent, ils construisent ce club, qui est un club qui a pas d'histoire, en fait. C'est ça qui est c'est un peu le PSG il y a 40 ans. Donc ils sont en train de construire une histoire. Je trouve que c'est plutôt intelligent. Ils vont mettre des moyens, des gros moyens, j'en suis pas certain. Parce que ils vont pas faire n'importe quoi, c'est pas comme le Qatar, et c'est en ce sens que je me dis que ça peut fonctionner, ça peut marcher, parce que ça
veut dire quoi fonctionner?
Réfléchi. Mais on fera pas n'importe quoi. Ça veut dire que
oui, mais ça veut dire que le Paris FC, donc deux clubs de
dessous, quoi, en gros, c'est ça?
Non, c'est pas ça que je dis. C'est que il faut pas mettre dessous n'importe où et n'importe quand.
Mais Denis,
virer tout le monde tous les ans.
Denis,
ce serait
quoi un bon PFC pour concurrencer, pour être enfin une capitale comme les autres capitales européennes, avec deux clubs forts dans les ligues? Ce serait
un club
quoi,
comme
en fait
Monaco, voilà, un club qui a une équipe comme Monaco,
qui joue
par exemple
le podium, en fait,
qui joue le podium, l'Europe, qui a de la qualité,
le budget de Monaco, avec les avantages fiscaux qu'a la SM, c'est quand même du très très haut niveau.
Non, mais
du très haut niveau, Denis.
Mais le PFC aura ce budget-là, tu verras.
Bah écoute, ce serait énorme.
Mais s'ils veulent arriver de jouer dans les deux ou trois premiers, t'es bien obligé d'avoir un budget autour de 300-400 millions.
D'accord. Je vous propose d'écouter Antoine Arnaud, un bout
bout de sa conférence de presse sur, évidemment, cette prudence au niveau des ambitions.
On veut faire les choses étape par étape. On ne veut pas les brûler. D'abord, construire encore mieux cette très belle équipe de Ligue 2 qui a pour vocation à monter en Ligue 1. Bien entendu, une fois qu'on sera monté en Ligue 1, c'est pareil, le premier objectif, ce sera d'y rester. Et puis ensuite, petit à petit, on va essayer de construire une équipe qui sera en première moitié de tableau et ensuite qui essaiera d'accrocher les places européennes. Jamais vous me verrez annoncer qu'on veut gagner la Ligue des Champions dans 5 ans, parce que je pense que c'est pas du tout notre vocation.
C'est un sacré pavé dans la mare du Paris Saint-Germain tout de même, cette déclaration.
Ils se construisent en opposition totale avec le projet du PSG, et je pense effectivement qu'ils vont aller récupérer des gens qui ont été déçus par ce projet, qui en ont marre de cette grandeur, de même si évidemment ils espèrent toujours remporter la Ligue des Champions et qu'ils se sont régalés avec les grandes stars qui sont venues au PSG. Mais je trouve que c'est bien d'avoir deux clubs différents, avec des projets différents, avec
un ADN différent
ouais. dans la capitale. Et tu voulais... Je sais, tu avais eu l'idée de faire un débat autour de ça. Est-ce que ça peut devenir un vrai rival, et est-ce qu'il va falloir forcément être supporter de l'un ou de l'autre en opposition? Et je pense que, franchement, moi, j'ai envie de voir le PFC réussir, d'arriver au haut niveau, d'arriver à titiller les
plus. Il y a quelques années, on avait le matra, souvenez-vous.
Mais ça n'a jamais vraiment pris. Il y a quelque chose de très excitant, et comme je disais il y a quelques instants, on était la seule capitale à ne pas avoir grande capitale européenne, à ne pas avoir plusieurs clubs en son sein. Donc, j'ai envie de dire, c'est un juste retour des choses. Et l'histoire du PSG, parce qu'il y a une vraie histoire sur ce
pays.
Elle décline du Paris FC au départ. C'est ça, la création du PSG vient du Paris FC.
Non, mais ce step by step que nous décrit, ça, vous y croyez?
Il n'y a pas de stade. Enfin, pas de stade de qualité pour pouvoir aujourd'hui concurrencer.
C'est un vrai problème.
Je veux dire, c'est très bien de monter un club, mais ta billetterie.
Ils vont trouver un arrangement.
Mais comment tu veux faire avec Jean Bouin?
Comment
tu veux faire avec Jean Bouin?
Jean Bouin est à côté du Parc des Princes.
En tout cas, aujourd'hui,
ils tomberont sur deux stades.
Aujourd'hui, il n'a pas de stade à la hauteur d'un club de Ligue 1 qui aspire aux ambitions, même petit à petit, qu'il a annoncé. Pour l'instant, il manque le principal.
Par à Poissy, faire son stade de 70 000, il va récupérer.
Si il monte,
ils vont jamais aller jouer à Charletti. Donc,
pour la première fois, et même en conférence de presse, ils ont dit pourquoi pas Charletti si on aménage le stade.
Il casse un peu les courants d'air, parce qu'il fait froid dans ce stade.
On reparlera du Paris FC dès demain dans les grandes gueules du sport, donc soyez bien présents avec nous les copains. On se retrouve dans quelques instants pour les grandes gueules du sport avec nos GG et reparler de notre 15 de France. Est-ce que cette tournée là d'automne a fait oublier la tournée en Argentine cet été? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.